France Culture.
À Voix Nue cette semaine, Sylvie Vartan s'entretient avec David Arthur. Aujourd'hui, deuxième volet, une panne d'essence qui s'enflamme. Bonjour Sylvie Vartan.
Bonjour.
Alors, il y a eu l'hôtel d'Angleterre. Après l'hôtel d'Angleterre, cette petite chambre avec le KGB ou votre frère.
C'était pas une chambre avec vue.
Non, c'était pas une chambre avec vue, mais c'était une chambre avec
vue sur la cour, cela dit.
Voilà, et avec KGB où votre frère pouvait répéter ses cours de cordes harmonie. Par la suite, votre papa vous achète un appartement avec 25 ans de crédit à la cité de la Pelouse à Clichy-sous-Bois.
Oui. C'était les premières cités.
Et c'est là où se passe la grande partie de votre adolescence.
Oui.
Vous vous souvenez de... Vous étiez quel genre d'adolescente ?
Moi, j'étais assez grave. J'étais assez attentionnée. Mais ce qui m'importait le plus, c'est de ne pas fâcher mes parents. Leur procurer le plus de satisfaction possible. Alors, je n'étais pas du tout l'adolescente en rébellion. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à situer cet état d'adolescence, en fait, parce que moi, je n'ai jamais été... On dit, oui, on est toujours en rébellion avec son père, avec sa mère, c'est très sain. Je ne dois pas faire partie des normes, des statistiques, parce que moi, alors, je n'étais absolument pas en rébellion avec eux. Ce que je voulais faire, c'est les satisfaire. Évidemment, je n'y arrivais pas tout le temps, hein, bien sûr. Hein. Il y a eu des petits heures, mais disons que j'étais pas en rébellion. Je n'étais pas une enfant rebelle, j'étais quelqu'un de beaucoup plus adulte, puisque je prenais modèle sur mon frère Eddie. Et donc, les gens de mon âge, je les trouvais assez enfantins, au fond. Et j'avais toujours vécu un peu aussi en même temps, évidemment, une vie à deux avec mon frère, puisque j'avais un frère. Mais en même temps, comme on avait une grande différence d'âge, en fait, on était deux enfants uniques, quelque part.
Oui, puis l'arrivée en France avait été beaucoup plus dure pour lui.
Oui, bien sûr, parce que lui, ne sachant pas parler le français, on l'a mis dans une très petite classe, alors qu'il avait 14 ans, et donc c'était encore plus difficile. Donc il a vécu ça beaucoup plus difficilement que moi, qui était plus jeune et plus adaptable. Et j'ai appris beaucoup plus vite les choses aussi, hein, parce qu'à 7 ans, on a une ouverture d'esprit extraordinaire, et on n'a plus d'accent très vite, on apprend les choses très vite, on les intègre très vite, alors qu'à 14 ans déjà, avec la vie qui s'était passée et qu'il avait connue, forcément, il n'avait pas 14 ans, il allait sur ses 25 ans lui aussi. Donc c'était un peu plus compliqué.
Et alors lui, dans sa vie de jeune homme naissante, il s'orientait, je crois, vers le droit.
Oui, mais enfin, c'était... il avait fait une année de Sciences Po, comme ça. Mais enfin, il était assez dilettante.
Il était passionné, pas
du... Il était passionné par la musique, en fait. Il a troqué son corps d'harmonie très vite pour s'orienter vers le jazz. Et il a joué de la trompette à ce moment-là. Donc, il a commencé à jouer dans les clubs de jazz de Paris.
Le Blue Note,
et puis... C'est tout. Moi, je connaissais le Blue Note.
Il y avait
Note.
Bill Bocquet, rue Saint-Benoît, je crois.
Ah oui, mais là-bas, c'était son fief de copain. Oui, oui.
C'était Maurice et Nabou Casanova qui tenaient l'endroit.
Oui. C'est des bons amis. Et puis que, là où il a connu Carlos et tout ça, par la suite. Enfin, c'était une ambiance très joyeuse, très chaude. C'était le début des années 60. Là, on fait un grand pas en avant. Et donc, il rencontre Daniel Filipacchi, Franck Thénault, qui était passionné de jazz aussi. Et donc, leur passion commune a fait qu'il a commencé à travailler avec Daniel.
Donc, votre frère fait son parcours, fait son bonhomme de chemin, finalement, dans l'univers qu'il passionne le plus.
Oui.
D'ailleurs, je crois qu'il arrive à convaincre vos parents même de déménager pour aller habiter dans l'immeuble de Franck Thénault.
Oui, exactement, rue Louis Braille.
Et un jour, votre frère qui travaille chez Deka vient vous voir, en catastrophe, affolé, et il vous dit, écoute, on a un problème, il nous manque quelqu'un, on a un disque à finir, viens, je t'emmène.
Oui, tu dois mettre ta voix. Enfin, il me l'a fait écouter vaguement. C'était Francky Jordan qui avait déjà enregistré sa partie sur un duo qui s'appelait Panne d'essence, donc qui allait devenir Panne d'essence. Et en fait, c'était une adaptation américaine d'une chanson qui s'appelait Out of Gas, que Daniel avait déniché aux États-Unis parce qu'il venait toujours avec, avec tonnes de disques, aussi bien de jazz que d'autres. Le rock'n'roll aussi naissant, moi, qui était déjà bien né aux États-Unis dans les années 50. Et donc, ils avaient projeté de produire ce disque avec Gillian Hills et Francky Jordan. Francky Jordan, qui était un étudiant
dentaire,
voilà, et qui, en fait, qui était passionné de jazz aussi. Et il avait fait la connaissance d'Eddie dans un de ses clubs, j'imagine. Et donc, voilà, ça s'était fait comme ça. Il rêvait de chanter. Il jouait du piano et tout ça. Et donc, il avait déjà sa voix sur cette chanson. Et donc, comme Gillian Hills s'était pressentie pour un film ou je ne sais quoi, donc elle ne pouvait plus chanter. Et donc, moi, je me suis retrouvée dans ce salon de la rue Beaujon, aménagé en studio, séchant mon cours de maths pour aller poser ma voix sur ce disque qui devait sortir très, très vite avant les vacances. Et voilà, donc ça s'est fait. C'est la panne d'essence qui m'a fait démarrer.
Et après, vous repartez, vous devenez vendeuse pendant l'été.
Oui, dans un grand magasin de disques des Champs-Élysées qui s'appelait Symphonia. C'est mon frère qui m'avait pistonné. En fait, j'avais projeté de me faire de l'argent de poche parce que j'avais un collier que j'avais vu dans le passage du Lido qui me plaisait intensément.
Avec des grosses boules bleues turquoises.
Oui, une bleue turquoise en plastique en plus. J'aurais dû le garder ce collier. Je ne sais pas ce qu'il est. Parce que ça, c'était vraiment.
Bah, il a été
mon idée fixe.
Il a été immortalisé par Jean-Marie Perrier sur une photo qu'a fait la.
Salut les copains. Salut les copains, absolument.
Il y a François Hardy, Johnny. Et vous, avec le fameux collier.
Oui, puis après, plus tard, sur une photo où je figurais sur celle des copains par moitié, la moitié de mon visage, et on voyait les grosses boules bleues que j'adorais. Et j'ai travaillé dans ce but-là, de me payer ce collier-là, que j'ai acheté à la fin du mois d'août. Mais mon disque était déjà numéro un des hits parades, mais il n'y avait pas ma photo, donc c'était très pratique pour moi de le refourguer
aux touristes américains
qui demandaient Greenfield, et tous les tubes du moment, donc il y avait les charts au-dessus de la caisse et il y avait donc Panne d'essence qui était en bonne position, donc voilà.
Et de Panne d'essence découle votre première scène, je crois, votre première montée sur scène,
qui
est à l'Olympia.
À l'Olympia avec Francky Jordan, dans un Musicorama, je crois, je ne sais plus
exactement.
C'est Musicorama,
12 décembre 1961.
Eh bien voilà, donc vous voyez, moi les dates, je suis très, très nulle avec les dates. Mais voilà, donc on se trouve avec Francky sur la scène de l'Olympia, où je fais la connaissance de Bruno Cocatrix. Et ça fait tilt tout de suite avec lui, que je trouve extrêmement sympathique, qui me rappelle mon grand-père, que j'adore, avec sa moustache et son embonpoint, côté jovial et réconfortant, qui me poussait carrément sur scène.
Oui, c'est vraiment votre papa du musical.
Oui, ah oui.
Celui qui a cru en vous. Enfin, le premier qui
a cru... C'était Daniel.
C'est Daniel, voilà. Ouais, non, ouais. Le premier qui a cru en vous, c'est Daniel Filippaki.
Oui, c'est lui.
Et sur scène, c'est Bruno Cocatrix.
Oui.
Par la suite, est-ce que vous amenez votre disque à vos parents? Est-ce que vous leur faites écouter Panne d'essence ou
je crois que c'est Eddie qui leur a fait écouter parce que moi je faisais pas grande attention hein. Au moment où ça a commencé vraiment à marcher où la première émission de télévision je me suis trouvée épouvantable.
C'était quoi, Denise Glaser?
Oui, c'est ça. Oui,
Discorama.
Discorama avec Francky. Je roulais des yeux, je trouvais ça. Je me dis, mais comment je peux faire ces yeux-là? Quand je la revois, ça me fait rire maintenant. Sur le moment, je détestais me regarder. Ça continue d'ailleurs, je n'aime pas beaucoup me regarder.
Mais est-ce que ça répondait à votre rêve de petite fille de vouloir être comédienne?
Non, pas. Oui, il faut dire que le contact avec le public, c'était comme être. C'était quelque chose de tellement vivant et tellement il y avait tellement de répondants et tellement il n'y avait pas de trac la première fois, pas du tout, mais vraiment l'envie de toucher à ça quand même, de toucher à ça. Et après c'est quand j'ai commencé à vraiment faire une tournée avec Gilbert Bécaud en ouverture de son spectacle que vraiment j'ai vu le parallèle entre la scène et le théâtre et
Monsieur 100 000 volts.
Oui, ah oui, ça, il l'était. Mais oui, j'ai commencé à avoir cette idée qui germait en moi en me disant, oui, tout compte fait, c'est quand même très semblable.
Quelle a été, Sylvie Vartan, la réaction de vos camarades de lycée quand la collégienne du twist est revenue parmi elles?
Alors, c'était absolument incroyable et stupéfiant pour moi de voir que subitement le regard des autres sur moi avait tellement changé. Je ne comprenais pas, à vrai dire, comment ça pouvait opérer comme ça, aussi rapidement, en si peu de temps. J'étais privée de récréation, enfin, parce qu'apparemment, je semais le trouble. Et puis, j'ai été priée carrément, très rapidement, de rester chez moi, quoi. Donc, parce qu'il y avait des photographes qui venaient attendre à la sortie du lycée. Qui faisait des photos, et puis on n'appréciait pas trop ma notoriété naissante, j'imagine, au lycée Hélène Boucher.
Ça a été déstabilisant pour vous de vous retrouver d'un côté avec l'âge que vous aviez, l'adolescence, vos copains et copines adolescents, et de l'autre, avec, on peut dire, avec des fous dans une cave à jouer du jazz ou de la musique, parce que c'était un peu ça, il y avait une effervescence du côté de votre frère Eddy, du côté de Daniel Philippaki, toute la bande de ses copains.
Oui, je menais ma vie d'adulte, en fait, j'étais entourée que d'adultes.
Oui, mais il y avait une dualité entre les deux.
Oui, bien sûr, oui. Mais j'ai gardé mes amies filles pendant longtemps.
Oui, pas les garçons.
Non, parce que j'étais toujours amoureuse des copains de mon frère. Les garçons de mon âge ne m'intéressaient absolument pas. Ah. Voilà, c'est ça le truc.
On parlait de Daniel Philippaki tout à l'heure. On peut vraiment dire que c'est lui qui, après l'histoire de la panne d'essence, s'est dit, bon, finalement, il n'y a personne dans le rock féminin. Ça n'existait pas, le rock féminin,
non,
à l'époque.
Non. Moi, j'adorais ça, moi. J'aime toujours. Hein.
Oui, parce qu'il y a un truc, c'est dans D'où viens-tu, Johnny? Il y a une chanson où vous reprenez, où Johnny vous passe la guitare, qui commence à chanter, vous passe la guitare. Il y a un truc, c'est que vous en voyez.
D'ailleurs, je vais me faire plaisir parce que mon prochain spectacle, il va être très rock, hein, très rock et rhythm and blues.
Vous revenez à vos premiers amours?
Ah oui, je vais faire un spectacle 60s, hein, quand même, en grande partie. Hein, ça va être au Palais des Congrès, donc je pense que c'est la dernière fois que je ferai le Palais des Congrès, mais là, ça va, comme vous dites.
Ça va déménager. Alors, par la suite, donc, Daniel Philippaki vous contacte et vous dit, voilà, on va faire quelque chose avec toi, on va y aller, tu vas refaire un 45 tours, deuxième.
Et il me trouve une chanson également américaine qui s'appelait « Sad Movies Make Me Cry » et c'est devenu « Quand le film est triste ». Et donc c'était mon premier 45 tours solo. Alors il y avait plusieurs chansons, il y avait une adaptation de Presley qui c'était « Sois pas cruel », ça il fallait le faire quand même, il fallait oser. J'avais tous les... j'avais pas le trac de toutes ces adaptations qui, je dois dire, pour certaines sont impossibles à reprendre. Oui, on aurait mieux fait de s'abstenir, mais bon. Donc il y avait Quand le film est triste, il y avait Calendar Girl qui est devenu Tout au long du calendrier, Don't be cruel, Sois pas cruel, et puis une quatrième, je crois, qui est un petit lasca ou un truc épouvantable, inchantable, ridicule, grotesque, que je trouvais déjà grotesque à l'époque, mais on disait, oh ben c'est pas grave, tu sais, c'est la quatrième chanson, c'est pas, on fait du remplissage, du moment que le film est triste, c'est ça la première chanson, donc c'est tout ce qui compte. Alors, moi, je disais, bon, ben, ça doit être comme ça, dans la musique. Je m'occupais pas trop de je
oui, vous passez votre voix,
voilà, ce que l'on me disait, au choix de Daniel et de Eddy, en fait. C'est un petit peu plus tard que j'ai décidé moi-même de ce que j'allais chanter ou pas. C'est venu d'ailleurs avec la scène, avec justement le contact avec le public et l'apprentissage de tout ça, et le fait de me retrouver devant des gens, de prendre le plaisir à chanter certaines choses et pas d'autres, et puis de sentir tout ça.
Une grande messe, une communion, de ne pas vouloir tricher avec le public.
Voilà. Mais ça vient avec l'expérience, avec une certaine expérience.
Et Eddy vous protégeait beaucoup à l'époque de votre premier disque?
Oui et non. En fait, mes parents pensaient qu'ils me protégeaient beaucoup plus qu'ils ne le faisaient, en fait. Donc, ils étaient très tranquilles, mais ils me laissaient assez libre. Ils avaient confiance en moi.
Oui, vous aviez une relation à demi-mot.
Oui, non.
Un peu comme vous étiez un peu des jumeaux, d'une certaine manière.
On aimait la même chose. Et puis, bon, il me façonnait sur le plan musical. Il m'inspirait beaucoup. Il m'apprenait beaucoup de choses. Et c'était un petit peu mon garde-fou, oui, musicalement. Parce que moi, je ne connaissais pas trop la musique. Lui était musicien. Moi, je n'avais pas eu cette chance d'apprendre la musique.
Vous écoutiez quoi, adolescente?
J'écoutais Presley. J'écoutais les Platters, sur lesquels je dansais, évidemment, comme tout le monde, ceux de mon époque. J'écoutais surtout le jazz, hein, tout ce qui était Jazz Messengers, Count Basie, Duke Ellington, Oscar Peterson, le Modern Jazz Quartet, tout ça, Miles Davis. On allait à tous les concerts de jazz, j'y allais avec Daniel et Eddie. Ils ont fait ma culture musicale de l'époque. Hein. C'est vrai que j'aimais le rock, j'aimais Brenda Lee, qui était une petite jeune. Et pour moi, c'était fascinant de voir qu'elle était si jeune et qu'elle chantait si bien le rock. Donc j'avais pris et j'avais fait cette chanson qui s'appelait « Je suis libre hein, », qui était « Just a little », qu'elle chantait. J'adorais la chanter, évidemment.
Et juste avant de rentrer dans la bande de « Salut les copains », il y avait des artistes de cette bande que vous admiriez?
Je ne sais pas si François chantait déjà quand j'ai commencé, ou elle a commencé tout de suite après, ou en même temps, ou je ne sais pas trop. Mais oui, j'ai tout de suite aimé Françoise. Hardy. J'aimais beaucoup son « Tous les garçons et les filles », oui, de mon âge, tout ça. On s'identifiait beaucoup à cette chanson. Et puis après, plus tard, aussi « Le temps de l'amour » que j'ai reprise là, sur mon dernier disque, que j'aimais beaucoup. Oui. J'aimais son côté mélancolique avait beaucoup de résonance en moi, forcément, parce que j'ai ce côté mélancolique aussi.
Votre amitié a pris tout de suite, elle a pris tout de suite, votre amitié, ou pas? Avec Françoise Hardy.
Quand on s'est connus, oui, on ne s'est plus, je crois, oui.
Vous êtes reconnus en vous voyant?
Oui, on s'est reconnus, oui. Et puis, Jean-Marie faisait le lien aussi.
Oui, puisqu'il vivait à l'époque avec Françoise Hardy.
Oui, il était amoureux de Françoise.
Il était amoureux de Françoise Hardy.
L'excellente, comme il l'appelait.
L'excellente. Et par la suite, Jean-Marie Perrier est devenu votre photographe attitré pendant quelques années.
Bah oui, bien sûr, oui. On a fait le tour du monde avec Jean-Marie. Il m'a mis dans des positions incroyables.
Oui, sur des rails de chemin de fer.
En bécassine.
Oui, avec Sheila, en bécassine.
Oui, c'était génial, oui, dans une ferme.
Ou avec Dutronc en princesse.
Avec Adamo en statue. J'ai passé la plupart de la journée couverte de plâtre. Enfin, tout était...
Ça vous amusait?
Oui, ça m'amusait, oui. Ah oui, ça m'amusait. Puis les résultats étaient tellement rigolos. C'était une façon aussi de jouer la comédie, d'être quelqu'un d'autre.
Vous étiez demandeuse?
Oui.
Et alors, dans cette même période, un jour, vous passez sur scène à l'Olympia. Dans la salle avec votre frère, il y a quelqu'un qui va devenir inévitable dans votre vie, c'est Johnny Hallyday. Est-ce que vous pouvez nous parler des premiers mots que Johnny a dit en vous voyant? Qu'est-ce qu'il a dit à votre frère?
Je crois qu'il les a dit à mon frère, oui, surtout.
Oui.
Enfin, je l'ai dit tel quel.
Ah, oui, parce que...
tel quel, j'y vais alors.
Allez-y.
Tu as vu la fille sur scène, je me la ferais bien. C'est Dixit, dans le texte. Et alors, mon frère, évidemment, il est un peu tiqué. Hein, il a dit, ah oui, bah, oui, c'est ma sœur. Ça tombe mal.
Et alors, première fois que vous rencontrez l'idole des jeunes, vous êtes sous le charme, pas sous le charme, il est...
Vous aviez la tête et le cœur ailleurs.
Oui,
j'avais le cœur ailleurs, surtout. Donc, bon, moi, quand j'ai le cœur ailleurs, je ne regarde pas ailleurs non plus.
Vous êtes exclusive.
Oui, je suis assez passionnelle dans mes relations. Donc, je ne savais pas trop. Enfin, je savais ce qu'il faisait, mais j'avais été le voir, d'ailleurs, avec Daniel Philippaki, qui m'avait amené à Milly-la-Forêt, je ne sais plus, pour le voir en concert. Et puis, j'avais trouvé ça pas mal. Après, j'étais surtout intriguée par le fait qu'il n'était pas du tout à l'image qu'il donnait. C'était quelqu'un de tellement différent. Donc, c'était assez curieux. J'étais peut-être un petit peu surprise par le fait qu'il n'était pas du tout ce que j'imaginais qu'il était.
Oui, il était quelqu'un de
très réservé, timide. Oui, il rougissait. Oui, c'est curieux. Mais bon, il faut dire qu'il était gamin aussi, hein.
D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas osé venir vous déclarer sa flamme. C'est Jean-Pierre Pierre-Bloch qui est venu vous voir.
Oui.
On est un peu dans Cyrano de Bergerac,
oui,
version Hallyday.
Voilà, c'est ça. Oui, c'était tout à fait ça. C'était très rigolo. Je trouvais ça curieux, mais intéressant.
Finalement, vous avez pris les rênes de votre amour naissant, d'une certaine manière. Parce que c'est, vous qui
a... c'est toujours les filles qui choisissent un peu, hein, je ne veux pas.
Mais... ça n'a pas changé.
Oui, oui, c'est-à-dire... Non, ça n'a pas changé, je crois que... Oui, non, c'était comme ça. C'est arrivé en tournée. Hein. On est tombés amoureux l'un de l'autre en tournée. Et forcément, on était poussés par la même énergie. On se reconnaissait dans la... dans les mêmes choses, forcément, dans les mêmes angoisses, dans les mêmes emportements, dans les mêmes amours, et puis on se plaisait.
Oui, aussi, c'était fusionnel. C'était
fusionnel. Oui, absolument, oui, oui.
Oui, parce qu'on vous a beaucoup accusé à l'époque de faire un coup médiatique.
Oh non, bah ça, n'importe quoi, ça. On n'a jamais pensé une seconde à ça. On a découvert les tabloïdes avec... énormément de surprises et on se demandait ce qui se passait. En fait, on comprenait pas pourquoi on faisait l'objet de tant d'attention, au fond.
Vous aviez des filles que vous croisiez dans les concerts qui vous en voulaient, ou pas de leur avoir volé, finalement?
Des filles, non.
Non,
non, au contraire, moi, j'avais un public de filles. Moi, je crois que maintenant, avec l'analyse, je pense que pour avoir du succès, quand on est une femme, et, il faut avoir un public de filles. Parce que c'est les filles qui vont au spectacle. Ce n'est pas les hommes. Les hommes, c'est toujours les filles qui traînent leurs petits copains ou qui disent « Allez, viens, on va voir un tel, on va voir une telle. » Et si les filles ne vous aiment pas, bah, c'est fichu. Hein.
Oui, les hommes, ils se contentent d'un match de foot devant la télé.
Voilà. Maintenant, de l'ordinateur.
Et voilà. Voilà. Oui,
donc,
Internet.
C'est les femmes qui poussent. Mais non, je vais les voir. Voilà, c'est toujours comme ça. Oui. Et puis les hommes, ils sont tellement gentils que pour faire plaisir aux femmes, qu'est-ce qu'ils ne feraient pas à leurs femmes? Non, mais non, c'est vrai, j'avais un public de filles. Mais moi, je suis très copine aussi. J'ai toujours eu des amies filles, des amitiés féminines fortes. Et puis, je sais pas, non, j'étais bien avec les filles, mais j'étais très bien avec les hommes aussi, parce qu'en fait, je n'étais entourée que d'hommes. Il n'y avait pas de filles dans mon milieu, pratiquement. Je passais ma vie en tournée, très vite. J'étais entourée de musiciens, mon frère, les producteurs, tout le monde. Il n'y avait que des hommes. Il y avait les choristes. qui était en général féminine, mais c'est tout. Hein. Sinon, j'étais souvent très seule et j'étais toujours avec des hommes. Mais je me plaisais bien avec eux aussi dans leur compagnie. Hein. J'étais.
Alors, il y a un moment.
Je trouvais les filles des fois un peu mièvres aussi, à part mes amis.
Alors, il y a un moment où vous n'avez pas du tout été seule. Bien au contraire, c'est le jour de votre mariage.
Ça, non, j'étais très animée. On avait invité beaucoup, beaucoup de monde.
Enfin non, vous aviez invité peu de monde, oui, mais beaucoup de gens étaient venus.
Oui, c'est ça, voilà. C'était une grande kermesse.
Ça vous a fait prendre conscience du phénomène que vous étiez, que vous deveniez ou...
C'était tellement intégré à ma vie quotidienne que... Bon, c'est vrai que ça a été... assez violent. Ce jour-là, parce que ça a un petit peu gâché, si on peut dire, par le fait que ce soit violent, justement, à l'extérieur de l'église, ça a gâché un petit peu la journée, parce que je me faisais beaucoup d'inquiétudes pour ma grand-mère qui était âgée, mon père qui se déplaçait mal. J'avais très peur parce que on a été pris de court, en fait. Mmh. On a été pris de court et il y a eu énormément de monde dans un tout petit endroit. Donc il y a eu des bousculades, des cris, donc c'était un peu angoissant. Et puis trop de monde, en fait, on avait l'impression de se donner en spectacle. C'était assez de...
Oui, c'était du cirque.
Oui, c'était un peu un cirque, oui. Donc on pouvait pas être tellement recueilli ou attentif et...
Il y a un moment où vous avez failli remettre le mariage en vous disant c'est
non,
pas
parce
possible
qu'on était... Non, non, parce qu'on a découvert ça le matin. Parce qu'on pensait que tout était tenu secret. Hein.
Quelle a été la réaction de vos parents face à cette émeute? C'est-à-dire qu'ils avaient conscience du phénomène que vous étiez devenu?
Oui, mes parents. C'est pour ça que ma mère, je pense, était toujours assez contre tout ça. Ça l'effrayait beaucoup. Et puis pour ma vie, pour... d'être exposée comme ça en permanence et puis de perdre son anonymat, de voir sa vie étalée n'importe comment, les propos
déformés,
inventés, des photomontages, c'était le début de tout ça, c'était incroyable. Mais il y a beaucoup de gens qui faisaient beaucoup d'argent avec ça, on l'a pris par la suite. évidemment.
Oui, vous êtes à la genèse des paparazzi.
Non, absolument, oui. Moi, j'étais absolument à 100 lieues de me douter que ça pouvait exister, une chose pareille. Mais en lisant les grands titres, en voyant ça placardé sur les murs des kiosques, on disait, mais tous, ils ont été chercher ça, mais qu'est-ce que c'est? C'est pour ça qu'on ça vous conforte dans votre vérité, quoi. C'est très important. C'est comme on construit un mur contre tout ça, et on est d'autant plus fidèle à qui on est, mais à ce que l'on est, pour ne pas se laisser entamer, quoi. Ça isole forcément.
Ça vous a obligé plusieurs fois à rester chez vous en vous disant non, tiens, je vais pas aller faire
mais
ça.
Mais vous savez que j'ai tellement développé le fait de ne jamais sortir que il y a très peu de temps, il y a quand même maintenant 15 ans que je sors en fait et que je me dis bah tant pis hein, après tout. Et c'est pas une question c'est comme une habitude, c'est comme quelque chose d'ancré en soi. Moi, par exemple, je ne connais pas Paris, hein, Il y a des endroits où dans Paris, je n'ai jamais été.
Alors, quand vous êtes jamais promené dans Paris à vous perdre?
Ah, ben non. C'est le fait d'aller aux États-Unis qui m'a vraiment décontracté, le fait de me remarier et de vivre une vie quand même différente. Et puis, évidemment, aussi, prendre de l'âge et se dire, après tout, tant pis, je vais chercher ma fille à l'école, je vais dans le grand magasin. Et puis, tant pis, hein, les gens me regardent, ils me regardent, et puis voilà.
Alors, on va se retrouver demain, Sylvie Vartan, si vous le voulez bien, pour parler de cette vie d'ouverture et d'extérieur.
D'accord, à demain.
Oh, ne te mets pas en colère, il n'y a vraiment rien à faire. La voiture est en panne d'essence, nous n'avons vraiment pas de chance. Pourquoi t'affoler?
Je rentre à la maison,
ça fait bien loin à pied.
Oh, je connais les garçons,
l'endroit est désert.
Je te vois bien venir,
il a tout pour plaire.
Il faut repartir,
mais je n'ai plus d'essence.
Ça, je n'en crois rien,
nous sommes en avance.
Ça t'arrange bien,
il faut rester là.
Ma maman m'attend,
surtout ne t'en va pas.
Tu es un chenapan.
Wow, surtout n'ouvre pas la porte. Dehors la pluie est si forte. Entends-tu le tonnerre gronder? Viens dans mes bras pour te réchauffer. Dans mes bras il fait bon.
Tu vois je le savais,
à pied c'est trop long.
Tu me fais bien marcher,
tu devrais me croire.
Moi je sais que tu mens,
je n'ai rien dans le réservoir.
Mais je t'aime tant,
je voudrais t'embrasser.
Pas plus d'une fois,
pour te réchauffer.
Prends-moi dans tes bras.
Ah comme on est bien,
dehors il pleut.
Pour l'essence on est loin.
Oh oui c'est tant mieux.
Boutoum boutoum boutoum.
N'allez à
C'était À Voix Nue, Sylvie Vartan s'entretenait avec David Arthur, à la réalisation Nathalie Triandafilidès. On se retrouve demain pour le troisième volet, ce que la vie se charge de nous rappeler. Vous pouvez réécouter les émissions pendant une semaine sur le site www.franceculture.com.
N'allez, allez, allez.